assistant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.
Bonjour à tous, bienvenue dans Un protestant peut en cacher un autre. Alors pour cette émission, vous allez écouter la seconde et dernière partie d'un entretien enregistré avec le professeur André Gounel, où cette fois-ci, nous parlerons plus précisément de son parcours théologique.
Cette semaine, comme la semaine dernière, je reçois André Gounel, donc pour la suite de notre entretien. Alors cette fois-ci, nous allons parler plutôt des théologiens américains qui ont été une découverte, une redécouverte, ou en tout cas mise en valeur par André Gounel. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de Tillich d'abord, et puis des théologiens du process? Alors d'abord Tillich.
Oui, Paul Tillich. Alors, Paul Tillich est un théologien allemand, mais qui en 1933 est destitué par les nazis. Les nazis arrivent au pouvoir fin janvier 1933, et Tillich est destitué le 1er mars. Il est alors appelé aux États-Unis pour un enseignement au début provisoire, puis après définitive, et il y fera toute la fin de sa carrière jusqu'en 66, si je me souviens bien.
Et alors, qu'est-ce qu'il apporte au protestantisme, enfin à la théologie?
Alors, Paul Tillich a une double formation de philosophe et de théologien.
Ah, ben comme vous.
Oui, mais il est allé plus loin que moi en philosophie.
D'accord.
Et c'est un homme qui a eu une vie difficile avec la guerre 14-18, où il a été aumônier sur le front français, à Verdun et à la bataille de la Somme. Après la guerre, il devient professeur d'université, en philosophie comme en théologie, il passe d'une chaire à l'autre. Il est alors le théoricien du socialisme religieux. Alors il était socialiste religieux et pas christianisme social, comme on dit en France, parce que dans le socialisme religieux sont associés beaucoup de juifs. C'est judéo-chrétien. Donc il emploie l'expression socialisme religieux avec sa volonté de donner une dimension religieuse au socialisme et de donner à la religion une dimension sociale. Évidemment, ça le fait assez mal voir des milieux conservateurs, et encore plus des milieux de droite. Et il publie en 33 un livre qui s'intitule « La décision socialiste », où il y a des passages de critiques féroces envers le nazisme, quelques semaines avant l'arrivée des nazis au pouvoir. Et c'est en fonction de cela qu'il est révoqué. Il va donc aux États-Unis, où il débarque en novembre 33. Il donne ses premiers cours en janvier 34, alors que quand il débarque, il savait pas un mot d'anglais. Ça a été laborieux au début.
Oui, oui.
Et puis, petit à petit, il s'est fait un nom, une réputation aux États-Unis, et il est devenu un théologien très très connu, à tel point que le président Kennedy le met dans la liste des 100 intellectuels américains qui sont invités à la Maison-Blanche au moment où il accède à la présidence. Il a le droit à la couverture, à la première de Times.
Ah, d'accord.
Donc une notoriété qui dépasse beaucoup le milieu théologique strict.
Et qu'est-ce qu'il apporte? Quelle est sa nouveauté?
Alors, il y a chez lui d'abord, la volonté de ce qu'il appelle une théologie de la culture, c'est-à-dire d'une articulation entre la théologie et la culture. Il ne veut pas d'une théologie coupée de la culture, ni d'une culture sans théologie. Alors, il ne s'agit pas de les confondre, il ne s'agit pas de recréer une culture chrétienne, quelque chose comme ça, mais il s'agit de les mettre constamment en interaction, ou, pour employer un mot qu'il affectionne, en corrélation. Et la théologie de la culture, c'est le titre d'un de ses livres qui a été traduit en français.
À une époque. Quel est celui qui répond à l'autre? Enfin bon, les deux se répondent.
Les deux se répondent, c'est un dialogue. Hein. Alors, l'exemple qu'on peut donner, c'est celui qui développe dans un de ses livres les plus connus, qui s'intitule « Le courage d'être », où il dit, voilà, au XVIe siècle, la culture était dominée, les gens étaient dominés par l'angoisse de la culpabilité.
Oui, c'est Martin Luther.
Et alors, la réponse, c'est Martin Luther, évidemment. Mais pas que, il y a une quantité de gens. Et la réponse trouvée dans l'Évangile, c'est la réponse, c'est la justification par grâce. Et alors la justification par grâce se retourne, si je peux dire, vers la culture qui dit « mais si on est justifié par grâce, alors à quoi bon ce qu'on fait? Est-ce que c'est pas absurde ?» Et naît l'angoisse de l'absurde, qui est l'angoisse dominante au XXe siècle,
oui.
Et où la réponse de évangélique, ce sera le sens donné à la vie par le Christ. Et puis, on peut aller plus loin en disant il y a la même chose sur le plan de la libération, quand l'être humain se sent esclave, comme dans les années 60 du siècle dernier, des structures sociales, la réponse évangélique, c'est la libération. Alors, ça se fait dans un va-et-vient constant. Ça veut dire qu'à partir de leurs angoisses, à partir des préoccupations qu'exprime la culture, ces préoccupations sont des questions. L'homme est question. L'homme est l'être qui se pose des questions. Et ces questions, la révélation, la Bible, apporte des réponses. Mais ces réponses deviennent elles-mêmes questions. Et viennent questionner la culture. Et il y a ainsi un jeu de questions et de réponses absolument continuelles.
Mais c'est beaucoup plus, c'est plus intellectualisé, mais ça ressemble un peu au méthodisme avec cette prise en compte personnelle de l'expérience
exactement,
religieuse.
Oui, exactement. Il y a une insistance très grande sur l'expérience. Alors, il est clair que la réponse, si je peux dire, de la révélation ne peut pas être déduite de la culture. La révélation vient d'ailleurs. Il y a une parole qui est dite d'ailleurs, mais cette parole s'insère dans la culture et dans la préoccupation des gens. Alors il s'agit de faire apparaître cette corrélation. Et le rôle du prédicateur, c'est de faire apparaître cette corrélation et de montrer au fond que l'Évangile nous concerne. Que l'Évangile, c'est pas sortir du monde pour aller dans un monde autre, mais c'est apporter des réponses pour notre monde.
Alors c'est beaucoup moins doctrinal ou doctrinaire que d'autres théologiens, comme Karl Barth par exemple.
Alors, dans la pensée de Karl Barth, la culture joue évidemment un certain rôle, mais alors là il y a une opposition. C'est la révélation vient, et la culture doit être effacée. Il faut dire, ou doit se soumettre. Il faut dire que la culture, pour Barthes, ça représente beaucoup, surtout dans les années 30-40, ça représente surtout c'est très lié au nazisme, à cette culture allemande. Et là, pour Barthes, l'Évangile dit non à ça. Tandis que pour Tillich, elle dit à la fois oui et non. Il y a une préoccupation, mais vous n'avez pas la solution. Il faut trouver la solution.
D'accord.
La solution vient d'ailleurs. Et c'est vrai que l'idée d'une théologie de la culture est une idée qui est assez étrangère à Barthes. Et quand j'ai fait mes études de théologie, c'était une idée qui était tout à fait loin de notre pensée.
Oui.
Pas de la mienne, j'avais cette préoccupation, moi, de la culture.
Que vous aviez une formation de philosophe, et donc j'étais...
Parce que j'avais une formation de philosophe, parce que aussi, j'avais passé mon enfance au Maroc, dans un autre monde, avec une autre culture, et que j'étais porteur d'un certain nombre de questions autres. Et c'est là aussi que Tillich m'a apporté. N'est-ce pas, en France marocaine, on était dans un monde, je ne sais pas ce qu'il en est du Maroc de maintenant, mais dans ce Maroc des années 50, la présence de Dieu, la préoccupation de Dieu, le discours sur Dieu, était dans la population musulmane constant. C'était un monde vraiment avec Dieu. Et ça nous posait, à nous chrétiens, un certain problème.
Parce que le Dieu qui sauve uniquement par Jésus-Christ était difficile voilà. à mettre en...
Alors je me souviens toujours du catéchisme d'un Bartien, d'un Suisse-Français Bartien, un homme de valeur d'ailleurs, Roland de Puéry, qui était en usage à ce moment-là dans l'Église réformée de France, c'était pas officiel, mais qui était très utilisé, et qui commençait en disant « Tous les dieux des autres religions sont des idoles, sont des faux dieux, sont des imaginations humaines. » Nous, nous n'avions pas ce sentiment au contact de l'islam. On avait le sentiment qu'il y avait vraiment une présence de Dieu, là, et en même temps, cette présence de Dieu était une présence qui nous interrogeait dans nos convictions chrétiennes, dans nos qu'est-ce que ça signifiait par rapport à l'Évangile.
Et c'est un peu le début de l'étude des religions comparées qui s'est faite après.
Voilà. Alors, il y avait une étude des religions comparées au 19e siècle, au début du 20e siècle, et puis ça avait disparu. Pour ma part, les religions, à la faculté de théologie, quand j'étais étudiant, ça relevait pratiquement de la missiologie.
Et comprendre l'autre pour aller le convertir.
C'était descriptif. On ne cherchait pas à les comprendre en profondeur, oui. En réalité. Oui. Et c'était d'ailleurs une discipline en voie d'extinction. Il n'y avait presque plus rien là-dessus. On ne s'intéressait pas vraiment aux autres religions.
Et maintenant, bon...
Alors c'est revenu quand...
C'est pas revenu
facilement quand j'étais étudiant et que je parlais de ça, mes camarades me regardaient un peu comme un ovni. Oui. Et quand jeune professeur, je me souviens dans une des premières séances du conseil de faculté où nous parlions théologie, il m'avait demandé d'exprimer un peu mes préoccupations et j'avais parlé des religions, c'était dans les années 70, ça avait paru à mes collègues, bon, tout à fait honorable, il n'y avait rien, il n'était pas question de m'excommunier, mais en même temps ça peut paraître quelque chose d'étrange, quelque chose d'un peu farfelu. On était au moment où on annonçait la fin de la religion,
oui, alors
où on parlait d'un christianisme non religieux.
Oui, j'en viens justement à la théologie du process, après 1968, donc les théologies de la mort de Dieu.
Oui, alors les théologies... Enfin, pour moi, mon problème pour m'en tenir aux religions, c'était au fond, s'il y a une présence et une parole de Dieu dans les autres religions, comment l'articuler par rapport au Christ? Comment articuler par rapport à l'Évangile. Et j'ai écrit un de mes livres, Parler du Christ, qui porte précisément sur ce problème-là. Et c'est ce problème que Tillich aborde beaucoup à la fin de sa vie.
D'accord.
Alors, j'évoquais effectivement cette période des années 68-70, où on parlait de la fin de la religion, du christianisme comme religion, de la sortie de la religion, pour reprendre une formule de Gaucher qui est célèbre, et de l'extinction de la religion, ce qui n'est d'ailleurs pas entièrement faux, dans le monde occidental. C'est vrai que dans le monde occidental, la religion est peau de chagrin, enfin, elle diminue, ce qui n'est pas le cas du reste du monde. Et sont apparues alors ces théologies de la mort de Dieu, c'est-à-dire des théologies qui voulaient se réclamer de l'Évangile, reprendre le message évangélique, mais le formuler sans Dieu, en
mais
éliminant
comment
Dieu,
un pasteur peut...
dans sa sorte d'athéisme chrétien.
Oui, comment un pasteur peut intégrer cette théologie de la mort de Dieu?
Ben, c'était pas simple. J'étais en paroisse à ce moment-là, c'est la fin de ma période pastorale, si je peux dire, et le commencement de ma période professorale. J'avais des paroissiens qui étaient remués par ça. Remuer en positif et remuer en négatif. Alors, plus en négatif qu'en positif,
oui, probablement.
Mais enfin, aussi en positif. Ouais. Hein. Et je me suis dit, nous étions très mal renseignés par des rumeurs, par des articles de grands journaux, par des choses comme ça, il faut aller voir de plus près.
Et là que vous avez intégré...
Alors, j'ai fait venir des littératures des États-Unis. C'était pas simple, parce qu'à cette époque-là, maintenant, c'est devenu beaucoup plus facile. Et c'était compliqué de faire venir un livre des États-Unis. Je vois le libraire à qui j'allais le demander et qui me disait tout, c'est pas possible, c'est pas. L'un d'eux a même dit, si vous en commandez 20 exemplaires, on fait venir, mais un exemplaire, c'est trop compliqué.
Oui.
Alors, j'avais des amis que j'écrivais, j'ai fait venir un certain nombre de livres et j'ai lu ces livres. Et j'ai trouvé que leur critique de la représentation classique de Dieu, la doctrine classique de Dieu, était une critique finalement assez solide, assez juste. Et que par contre, la solution qu'ils proposaient, celle d'un christianisme sans Dieu, était pas crédible, pas sensée, et pas conciliable, me semblait-il, avec l'Écriture.
Donc il fallait tout reconstituer, puisqu'il y avait un système...
Alors, j'avais, dans mes études de philosophie, j'avais travaillé sur Spinoza. Spinoza, qu'on classe facilement aujourd'hui parmi les penseurs athées, ce qui, à mon avis, est une erreur fondamentale. C'est un penseur profondément théiste, mais qui a une vision de Dieu, une conception de Dieu très différente de la vision classique, qui remet en cause un certain nombre de concepts, en particulier celui de personne, enfin, etc. Et j'avais donc dans cette idée qu'on pouvait penser Dieu autrement. Alors, pour dire les choses tout à fait plus simplement, longtemps on a pensé le système solaire avec les théories de Ptolémée, et ça fonctionnait, jusqu'à un certain point. Puis ça s'est mis de moins en moins à fonctionner. Puis à un moment, ça ne fonctionne plus. Alors on n'en conclut pas que le système, que les astres n'existent pas ou que le système solaire n'existe pas. On en conclut qu'il fallait un autre système pour le penser. Ben, c'est un peu la même chose. Il me semblait qu'il fallait chercher d'autres catégories pour penser Dieu. Alors c'est ce que je pensais et je tombe un peu par hasard, je faisais venir des livres. Je lisais des revues venant des États-Unis, je tombe sur un article de John Cobb, dont je n'avais jamais entendu parler, qui est un théologien, du côté pacifique des États-Unis, donc de la côte ouest, et qui est un théologien et méthodiste. Et il écrivait en réponse aux théologies de la mort de Dieu, et il disait exactement ce que j'avais pensé, en disant... leur critique est juste, mais ils en tirent des conclusions fausses. Il faut penser Dieu autrement. Et ils proposaient de le penser à partir des catégories philosophiques de Whitehead, un philosophe anglais qui est exilé aux États-Unis, pas pour des raisons politiques, lui pas du tout, parce qu'on lui avait offert une chaire à Harvard, et qui a développé tout un système philosophique différent de notre système, en particulier notre façon de comprendre la relation sujet-objet. Alors c'est très technique, je ne veux pas rentrer là-dedans.
Ben, on va d'abord faire une pause pour écouter un chant dont vous nous direz un petit peu ensuite pourquoi vous l'avez choisi, et puis on se retrouve après ce chant.
This world is watching more.
au sujet de ce chant, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Eh bien, deux choses qui correspondent assez bien avec la théologie du process. D'abord, c'est un chant plein de dynamisme. Marchons, allons en avant. Et ça, c'est la théologie du process. Une théologie qui tournait vers l'avenir, pour lequel le temps de Dieu, c'est l'avenir. Et pour lequel Dieu est compris avant tout comme un dynamisme. Pas comme un pouvoir qui régit tout, non, mais comme un dynamisme. Le royaume est en avant, il faut aller en avant.
C'est aussi l'idée que la création n'est jamais terminée.
Qu'elle se continue, qu'elle se poursuit tout le temps. Et il y a dans ce chant une note de joie, d'élan et de victoire. C'est pas un chant piétiste replié sur soi-même.
D'accord.
Dieu vient.
Oui.
Dieu vient dans notre vie, il vient dans le monde. Et ça, c'est très théologie du process, et c'est très l'enseignement de Jésus, le royaume de Dieu vient, le royaume de Dieu s'approche.
Vous avez aussi Albert Schweitzer, donc qui parle de l'idée que le royaume vient.
Voilà. Alors Albert Schweitzer, c'est ce qui est assez étonnant, c'est que finalement je l'ai découvert vraiment après Tillich et après Cobb. Bien sûr, je connaissais Schweitzer, tous les protestants français connaissent Schweitzer, tous connaissent l'histoire de l'embarrainé, mais on parle très peu de la pensée de Schweitzer. On parle de son œuvre. Or, sa pensée est tout à fait considérable. Alors, on parle bien de ses travaux sur le Nouveau Testament, mais ça va bien au-delà. Et Albert Schweitzer a aussi cette vision d'un christianisme tourné vers l'avant, tourné vers l'avenir. Et la prédication de Jésus, dit-il, c'est cela, le royaume de Dieu s'approche, pas il est là ou pas il est ailleurs, mais il s'approche, c'est un dynamisme, c'est quelque chose qui nous entraîne. Et Albert Schweitzer reprochait au christianisme d'être devenu une religion de la commémoration, une religion qui sans cesse rappelle les événements anciens. On remémore chaque année la naissance de Jésus à Bethléem, la croix et la résurrection. C'est pas ça le message évangélique. Le message évangélique, c'est Dieu vient, le royaume s'approche. Et quand on parle du respect de la vie chez Schweitzer, c'est le sens profond du respect. Le mot respect, même si Schweitzer l'a choisi, traduit mal l'allemand Ehrfurcht. Il faudrait dire, le service de la vie ou l'engagement pour la vie. Il s'agit que la vie triomphe de la mort. Et pour Schweitzer, c'est ça le message de l'Évangile, et ça nous engage. Et c'est un peu ce que je retrouve dans ce cantique, air populaire, air tout à fait chanté aux États-Unis, transformé quelquefois en chant patriotique, ce que j'aime moins. Mais c'est Dieu vient, il est en avant, allons-y. Donc une religion extraordinairement dynamique,
oui,
et joyeuse. Ce qui rejoint d'ailleurs aussi les méthodistes qui aimaient chanter,
oui, oui,
et qui chantent avec joie.
Oui, d'accord, effectivement. Et est-ce que cette idée du royaume qui vient, qui s'approche, ce dynamisme, est-ce que c'est passé dans les prédications? Est-ce que concrètement ça a intégré un peu, ça a imprégné le protestantisme français?
Alors, j'ai l'impression que ça a plus imprégné que ce que je le pensais. Et que peut-être ce que je l'aurais dit il y a 2 ou 3 ans. Parce qu'il y a eu un moment où j'ai eu l'impression, bon, j'ai fait découvrir la théologie du process en France, ça c'est moi, ça a été une partie de mon œuvre, mais que finalement, c'est un truc pas à côté d'autre. Et puis, quand j'écoute maintenant pas mal de prédications, il y a 2 thématiques. De plus comprendre la puissance de Dieu comme un pouvoir qui décide ceci, cela, et qui nous soumet à une sorte de fatalité et de déterminisme, mais comme un élan, comme une poussée en avant. Dieu n'est pas tout puissant, mais il est puissant. Et il est la puissance qui finit par l'emporter sur la négation, sur la mort. Alors ça, c'est un thème que je retrouve. Le thème de la toute-puissance est un thème qui a beaucoup reculé. Alors, c'est pas seulement la touche du process, hein. Bonhoeffer va dans ce sens, et il y avait eu avant en France Wilfred Monod, qu'on a oublié et qu'on a eu tort d'oublier, mon ami Laurent Gagnebin l'a rappelé. Alors, il y a cette thématique, et puis, oui, cette idée que le royaume, qui est quelque chose qui dépasse de beaucoup la religion, au sens strict du mot, qui dépasse beaucoup les églises, mais qui est une vision, un projet de Dieu, que l'homme est appelé à faire sien pour l'ensemble du monde.
Cette idée de que Dieu n'est pas tout puissant, ça va un petit peu contre la tradition sévenole où on disait Dieu voulant, un peu comme on dit Inch'Allah maintenant, c'est-à-dire bon.
Ça va beaucoup contre la tradition, contre une partie de la tradition, parce que quand nous disons la tradition, nous oublions toujours qu'il y a dans la tradition d'autres courants qui disent d'autres choses et qu'on a oublié ou qu'on a occulté. Mais ça va effectivement contre cette idée d'un Dieu grand planificateur. C'est lui qui l'a voulu. Un peu comme les musulmans, quand il y a un tremblement de terre affreux, ils disent Dieu l'a voulu, mektoub, c'est comme ça. Non, ça, c'est pas la théologie du process. C'est. Wilfred Bonneau se révoltait lui aussi contre ça. Non, ce que Dieu veut, c'est que nous fassions face et que nous luttions contre ces valeurs, contre ces déterminismes, et que nous les surmontions.
Oui, parce que si Dieu est tout puissant, on se demande ce qu'on fait sur Terre, et oui. Notamment dans le plan de l'avènement du royaume de Dieu, à ce moment-là, on a besoin de travailler, autant rester couché.
Oui, alors il y a une sorte de vision, comme je ne sais pas comment dire, comme Dieu chef d'équipe, je ne sais pas. Ou bien plutôt, selon une image que j'ai employée, comme chef d'orchestre, où il y a les musiciens qui chacun doivent jouer le mieux possible, se heurter à leurs limites personnelles, aux limites de leur instrument, aux limites d'un orchestre, mais ils sont emportés par le dynamisme de Dieu qui dirige l'orchestre. Et ce qui est visé, ben c'est le concerto, la symphonie.
Mais est-ce que toutes ces évolutions, est-ce que tous ces bouleversements, qui en soi sont très intéressants et ont été nécessaires, est-ce que ça n'a pas un peu perturbé les églises et la formation des pasteurs? Est-ce que le rôle du pasteur n'a pas été chamboulé par tout ça?
Oui, alors s'il y a eu une perturbation, il y a eu quantité de perturbations qui ne sont pas dues seulement à ça, qui sont dues aux évolutions sociales, au fait que c'est vrai que le Dieu classique, tout puissant, tout sciant, tout sachant, ne paraît plus guère pensable ni crédible dans notre monde, et que le pasteur est souvent un peu désemparé, ou se sont trouvés un peu désemparés. C'est vrai aussi que la religion, la prédication s'appuyait beaucoup sur une sorte de religion ambiante, de culture aussi, que le pasteur, d'il y a 50 ans, encore plus d'il y a un siècle, était un peu porté par sa fonction, par la fonction que lui donnait l'Église, par la fonction que lui reconnaissait la société, et qu'aujourd'hui c'est le contraire. C'est lui qui doit créer. C'est lui qui doit porter quelque chose qui puisse passer. Il n'est plus porté, il est devenu porteur. Alors évidemment que ça trouble. Évidemment aussi que il y a une évolution qui doit se faire dans l'Église. Or l'Église bouge, elle bouge considérablement. Et l'Église d'aujourd'hui, mon Église d'aujourd'hui, n'est pas du tout la même que celle où je suis entré il y a 50 ans. Mais le mouvement est lent. C'est vrai que souvent quand mes étudiants me disaient l'Église est immobile, je leur disais non, regardez ce que c'était autrefois, elle n'est pas du tout immobile.
Mais pour un certain âge, pour se rendre compte de l'évolution des choses.
Il faut du temps. Oui. Idée que je trouve beaucoup chez un réformateur, Zwingli, le réformateur, un des très grands réformateurs, mais un réformateur un peu éclipsé par Luther et par Calvin, qui était pasteur de paroisse, à la différence de Luther et de Calvin, qui étaient des universitaires. Et Zwingli dit toujours, attention, il faut prendre le temps, il faut éduquer, avant de remplacer la messe catholique par la scène protestante, il faut persuader les gens, il faut leur expliquer, il faut qu'ils comprennent. Ça mettra un peu de temps. Et Zwingli se heurte à cette époque au radicalisme des anabaptistes qui, eux, veulent rompre, qui, eux, veulent jeter, par exemple, les statues par terre. Attendez, dit Zwingli, il faut amener les gens par pédagogie à ça. Et je crois qu'il faut que nous ayons le sentiment de ce temps long pour que les choses se transforment.
Et est-ce que vous avez peur pour l'avenir du protestantisme libéral face au développement des mouvements évangéliques? Est-ce que vous avez peur pour l'avenir du protestantisme tout court?
Alors incontestablement, le protestantisme passe un mauvais moment hein, actuellement, en tout cas en Occident. Par contre, dans les autres régions, il se développe, mais il se développe sous des formes qui ne sont pas sans poser des questions. Hein. Ils sont souvent un peu, me paraissent, un peu aberrantes et paraissent conduire à des impasses. Et c'est clair que la force des évangélicals américains est quelque chose qui m'effraie, comme leurs thèmes religieux qui me paraissent, au fond, très peu bibliques. Hein,
par exemple.
Oh ben, tous ces milieux fondamentalistes, créationnistes ou de droite aux États-Unis. Et on ne peut pas se cacher que ce sont des forces plutôt montantes. Voilà, en 1938, juste avant la guerre, Paul Tillich écrit un petit article qu'il intitule « La fin de l'ère protestante ». L'ère protestante pour Tillich, c'est la période où le message du protestantisme s'incarne dans des structures ecclésiales, sociales, culturelles, propres, dans des institutions protestantes qui font à l'époque face aux institutions catholiques. Et Tillich, en 38, se demande si ça, c'est pas en train de disparaître, si cette époque de l'ère protestante n'est pas arrivée à sa fin, si au fond le travail fait par la réforme, si ce n'est pas une page maintenant à tourner. Et puis en 46-47, je crois, il écrit un autre article avec le même titre, mais avec un point d'interrogation, « La fin de l'ère protestante ». Et là, le thème qu'il développe, c'est de dire peut-être que les institutions protestantes sont amenées à disparaître, peut-être que ces églises disparaîtront sous leur forme actuelle. J'avoue, j'en serais chagriné parce que moi j'y suis attaché à ces formes et que je me suis trouvé pas si mal que ça. Mais, dit-il, qu'il y a une chose qui demeurera, c'est le principe. Ce sont les principes protestants. Et ça, ils ont existé avant la réforme, dans l'Église du Moyen-Âge, et ils existeront après la réforme, après la disparition du protestantisme institutionnel.
Et quels sont ces principes alors
Alors ces principes, pour faire court, c'est de dire Dieu seul est Dieu. Ce qui parle de Dieu n'est pas divin. Le pape n'est pas divin. Les sacrements ne sont pas divins. Ce qui témoigne de Dieu n'est pas divin. Dieu seul est Dieu. Le refus de l'idole. Le second principe, c'est « je suis devant Dieu », avec une insistance sur le « je ». Pas « nous sommes devant Dieu », mais « je suis devant Dieu ». Alors bien sûr, « je suis devant Dieu », ça veut dire vite qu'on dira « nous ». Mais c'est d'abord « moi, je suis devant Dieu ». Dieu me parle comme il a parlé une nuit à Samuel.
Oui, donc le rôle de l'Église, le rôle de l'institution est secondaire.
Est secondaire.
Dans cette relation, elle aide.
Elle n'est pas, c'est pas second, c'est important, mais c'est secondaire. Ça vient après. Et le troisième principe, c'est Dieu me parle par la Bible. Ça ne veut pas dire la Bible est parole de Dieu, ça ne veut pas dire la parole. Ça ne veut pas dire la Bible est dictée de Dieu, mais ça veut dire que Dieu me parle à travers les témoins bibliques. Alors, pour Tillich, ces principes, et en particulier les deux premiers, celui qui insiste sur le fait que Dieu est toujours au-dessus de Dieu, toujours au-dessus de ce que nous en disons, ce que nous en pensons, ce que nous célébrons, toujours au-dessus. Et le principe de la rencontre personnelle entre Dieu et moi, ça c'est des principes, tant que l'homme est l'homme, tant que l'homme a une étincelle de religion, c'est des principes qui demeureront.
Je vous remercie André Gounel, et je donne rendez-vous à nos auditeurs pour la semaine prochaine, à la même heure. Merci et au revoir, André.
Au revoir.
Merci à tous. Je vous annonce de nouveau l'adresse mail où nous attendons vos retours, vos réflexions, vos questions, tout ce que vous voulez nous faire part. Alors, l'adresse, c'est tout attaché, un protestant peut en cacher un autre, @radiofmplus.org, plus P-L-U-S. Merci.
Un protestant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.